No. Bon. Alors, bon. Je veux dire, on ne peut qu'abonder dans le sens de ce qui a été dit. D'ailleurs, les choses se recoupent, se recouvrent, etc. D'un exposé à l'autre, ce qui est bien normal, les référents sont là. Alors, moi, c'est surtout des choses qui m'ont, disons, qui ont été nettes, qui d'abord voudraient remarquer, enfin souligner, disons. Donc, il y a, alors, dans l'affaire de MeToo, qui en fait est plus compliquée qu'elle en a l'air. Et on se souvient en effet de la lettre d'opposition qui était d'ailleurs assez mal faite, mais qui disait quand même des choses, n'est-ce pas ? La lettre de Neuve, faite par, enfin bon, que de Neuve et d'être signé. Bon. Alors, ce qui est important, je crois, là, c'est plusieurs formules, notamment sur le discours du maître et la question sexuelle, enfin disons, et la ségrégation sexuelle que quel que soit le discours du maître, disons, il y a une autre ségrégation qu'on ne va pas atteindre en somme, qui n'est pas de ce registre-là. Et donc l'aide ici de Milner qui effectivement disons caricature un peu la chose, n'est-ce pas, force un peu le trait pour arriver à cette inégalité dans les corps, etc., qui est quand même assez frappante. C'est-à-dire que ce qui est frappant, c'est la façon dont il en parle, avec finalement cette pointe, hein, que le viol est la vérité du coït, c'est-à-dire, en somme, le viol, le coït serait un viol par essence. Alors, en effet, on n'est pas... On n'est pas d'accord, ça rejoint effectivement notre thème du collège clinique, n'est-ce pas, parole et violence, et le terme du viol est présent dans notre débat. D'accord. Alors ensuite, ça je crois que c'est un point important, c'est-à-dire c'est en somme que finalement ça élimine le consentement. Je fais remarquer à cet égard que précisément pour les mineurs, on a éliminé le consentement de la voix, la loi. La loi. On a éliminé le consentement de la loi, c'est-à-dire le mineur est par essence non consentant. Voilà. Disons, c'est la critique de Foucault. Foucault, je me souviens, il y a bien longtemps... Mais c'est publié, c'est dans les choses, hein, quand il disait enfin les enfants, ils ne demandent que ça. Voilà, c'était Foucault à l'époque. Donc, la loi, de ce point de vue, a tranché. On veut dire, alors, ce qui est en quelque sorte dans l'histoire, là, ça serait non seulement les enfants n'ont pas à consentir, c'est-à-dire peu importe qu'il consente ou non, c'est un viol, et alors après le seul critère va être est-ce que c'est 14, 15, 13, 15, 16, on ne sait pas, bon, disons que c'est flottant à ce niveau-là, je ne sais pas si on a tranché d'ailleurs, non ?
C'est 15,
mais pour ce qui est du consentement aussi, je ne sais pas.
Oui.
D'accord. En tout cas, enlever le 15, Il n'y a pas de consentement qui tienne, quel que soit l'âge de la personne, n'est-ce pas ? Tu peux, en poussant le bouchon, on arrive là. Alors évidemment, on se dit que, en effet, il y a une sorte de confusion ici, des confusions des jouissances et des répartitions. Alors, que je m'y retrouve un peu. Alors, là, évidemment, c'est pour ça, sur la question du signifiant, effectivement, les deux exemples qui ont été donnés, celui qu'on connaît bien, d'accord, avec le homme-dame, et celui là, qu'on nous a rappelé, qui est absolument magnifique, hein, les hommes ont des cerveaux et les femmes des cervelles, je trouve ça formidable. Bon, alors on est dans l'ordre signifiant de quelque chose qui ferait une répartition. Donc, homme-dame. Alors, je vous signale d'ailleurs qu'il y a des endroits en Suède, etc., où on refuse la discrimination, la ségrégation des ménères. Il y a des endroits, même au Brésil, j'ai vu souvent, il y avait des toilettes non. Même ici, j'en ai vu quelques-unes. J'ai vu quelques fois où, effectivement, on renonce à cette ségrégation, qui est parfaitement injuste, là encore, pour les dames, parce que c'est elles qui font la queue. Il faut quand même être clair sur ce point. D'accord. Alors, cette affaire sur les signifiants, cette différence de signifiants, elle est absolument très clairement indiquée. Bon, je rappelle, puisque c'est le sujet-là, quand Lacan devait expliquer à Hermann quel était le texte de son séminaire de l'année, qui était encore, hein, il lui a dit, Hermann, qui était spécialiste des singes, hein, donc il avait fait un livre sur les singes, que Lacan avait beaucoup apprécié, et donc il lui dit, voilà, la différence, c'est que, et ça rejoint aussi la question de la race et de l'idée de la ségrégation qui a été abordée également, il disait, voilà, le singe et la guenon sont de la même espèce, l'homme et la femme ne sont pas de la même espèce. Voilà, c'était le résumé du séminaire encore. Je crois que c'est plus sérieux qu'il n'y paraît, c'est-à-dire c'est vraiment une indication assez précise, d'ailleurs, qui est tout à fait dans le fil de ce qui a été énoncé. C'est des choses que je voulais remarquer. Donc, effectivement, il y a eu l'affaire du point de fuite, enfin, des déségrégations, enfin, qu'est-ce que c'est que la ségrégation, effectivement, il n'y a pas que la ségrégation des sexes, mais c'est vrai que la ségrégation des sexes, c'est là où effectivement on a un petit peu de mal, parce que c'est peut-être le problème, c'est-à-dire que on confond sans doute les différents types de ségrégation. D'accord, c'est pas de la même race, les hommes et les femmes, mais est-ce qu'on peut traiter la question exactement de la même façon qu'on le fait pour le reste? Ou bien est-ce que c'est l'inverse? C'est un petit peu ça la question. Je n'ai pas vraiment de réponse là-dessus. Voilà. C'est un petit peu ces questions sur lesquelles je crois vous pouvez, vous avez essayé de répondre, et on peut tout poursuivre le débat sur les endroits, parce qu'on s'aperçoit qu'on a beau là citer Lacan à gauche, à droite, etc., et bien saisir qu'il y a une différence, quand on essaye, par exemple, sur une question comme celle de la ségrégation, de faire la différence entre la ségrégation entre les sexes et les autres formes de ségrégation, disons, eh bien, on reste embarrassé. Hein? C'est-à-dire que, bon, on voit un peu, mais c'est pas complètement déplié. Et ça vaut pour les remarques, alors je ne sais plus, les autres, c'est le premier, etc., sur la question qui était tout à fait, en effet, instructive. Et voilà. C'est-à-dire, la grande affaire, c'est l'affaire de la symétrie. Pour moi, en tout cas, c'est l'affaire de la symétrie. Si on considère que... disons, le grand débat freudien concerne une dissymétrie homme-femme structurale, intangible d'une certaine façon, que Lacan reprend, mais la confusion, parce que cette confusion-là, elle est dans Freud. Elle est dans Freud parce qu'il y a tout le débat d'un côté sur la bisexualité et sa symétrie homme-femme, et puis vous avez la problématique phallique. Vous avez les deux chez Freud. Et effectivement, qu'il garde plus ou moins jusqu'au bout. Donc dans l'affaire de la ségrégation, il s'agit de savoir, disons, dans quel registre on va la situer. Il y a la ségrégation... disons structurelle, et puis l'autre ségrégation qui, elle, d'une certaine façon, n'est pas fondée et qui oblige à revoir. Parce que il n'y a pas cette symétrie qui est imposée par les normes sociales. Voilà.
Je pense qu'il ne faut pas s'arrêter sur la question de la ségrégation des sexes hommes-femmes, parce qu'on va tourner en rond et on va tomber sur une dichotomie entre d'un côté les hommes forts, puissants, et les femmes faibles, ce qu'a fait Milner. Hein. La subtilité de Milner, c'est qu'effectivement, il a compris que le consentement n'était pas suffisant pour expliquer ce qui se passait entre l'homme et la femme. Et là, effectivement, ce qui me paraît important, ce n'est pas la ségrégation des sexes, c'est la ségrégation des jouissances des corps, qui est indépassable. Et on ne peut pas comprendre, effectivement, ce qui se passe entre un homme et une femme si on ne part pas de ce qu'a avancé Lacan à partir du séminaire encore, c'est avoir cette question de la jouissance de l'autre comme tel, de la jouissance des corps. Et qu'est-ce que c'est que cette jouissance des corps, hein? Ça nous fait sortir cette question de la jouissance des corps indépassable, hein, d'un écueil et d'une dichotomie, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Je crois que ça... on reste très classique, sinon.
Mais le caractère réductif des jouissances des corps ne fait pas une ségrégation. La ségrégation, ça suppose un acte de ségrégation. La jouissance hétérogène de la femme, la thèse de Lacan, nous connaissons bien, et celle de l'autre, c'est effectivement une différence irréductible. C'est la thèse, quand même.
Philippe.
Pourquoi appeler ça ségrégation?
Parce qu'il y a une séparation radicale.
Une séparation n'est pas forcément une ségrégation, justement. C'est ça que je comprends pas. Autant c'est facile, je trouve, de vraiment voir que les femmes sont ségrégées depuis des siècles et que ce n'est pas encore tout à fait fini, même chez nous, dans le champ social, professionnel, etc. Ça, pas photo, toutes les, vous avez cité, toutes les études, les luttes, c'est parfait, il n'y a rien à dire. Pourtant, quand on arrive sur la question de l'acte sexuel, moi, je ne parlerai pas de ségrégation. Personnellement, je ne parlerai pas de ségrégation, parce que si on commence à parler là de ségrégation, on parle comme si il y avait un maître de la structure, en quelque sorte.
Non, ce n'est pas dans ce sens.
Bien sûr que ce n'est pas dans ce sens-là. C'est qu'il y a une différence irréductible.
Une dissymétrie.
Une dissymétrie, je suis d'accord, irréductible, un non-rapport, une non-fusion, enfin, on peut faire beaucoup de choses, mais ça ne fait pas de la ségrégation, ça fait de la différence, donc ça fait de la différence irréductible. Et c'est ça que je n'arrive pas à saisir, pourquoi on met dans le baquet de la ségrégation, parce qu'après tout, d'accord, certes, il n'y a pas de ségrégation sans signifiant, sans différence signifiante, ça c'est ce la confonde avec la ségrégation binaire, mais la réciproque n'est pas vraie. Toute répartition signifiante n'est pas une ségrégation. Et donc, il y a beaucoup de termes voisins de ségrégation, il y a abus, il y a discrimination, il y a répression, il y a exclusion, il y a tout une, et même fusion. C'est une ségrégation. Et donc là, j'ai l'impression qu'il faudrait qu'on précise un peu, qu'on s'accorde un peu sur le vocabulaire, sinon on va tout verser dans le baquet de ségrégation. Ah, oh, pardon.
Non. Non, mais précisément. Précisément. Bon, mais on entend.
Oui. Alors, non, parce que
ah, c'est enregistré. Précisément, c'était ma question. Alors, le débat a démarré sur la question que je voulais poser à toutes les quatre, parce qu'effectivement, moi, je me disais, est-ce qu'il est juste de parler de notre point de vue à nous? Parce que dans les interventions, ce qui était intéressant, c'est qu'on voyait très bien la différence entre les discours et le discours analytique. Et je me disais, au fond, est-ce qu'il est juste, de notre point de vue à nous, de parler de ségrégation des sexes? J'en suis pas certain, en fait. Donc, effectivement, c'est la ségrégation des jouissances, ou par exemple, l'exemple que tu donnes, Yann, sur la guerre des boutons, c'est des garçons, hein, qui
sont... Ah oui, c'est que des garçons, voilà. Les filles sont exclues.
Alors, est-ce qu'il ne faut pas dire la ségrégation du sexe? Hein, c'est-à-dire que c'est l'insulte coup de bol, c'est l'avoir en avoir ou pas, quoi. Voilà. Et ou par exemple, à Intelskovic, vous avez parlé, il me semble, plus de séparation. Les femmes sont à part. Et non, vous avez plus parlé de séparation que de ségrégation. Bon, voilà. Donc, je me disais, est-ce qu'on peut parler de nous de ségrégation des sexes? Est-ce
qu'on peut? Oui, c'est ce que je disais, c'est que le discours analytique était le seul à maintenir cette différence. Moi, je parlais de différence.
Parce que au nom de l'égalité sociale, au nom de l'égalité sociale, on va vouloir prôner l'égalité complète. Bon. Et on arrive à un discours qui est assez absurde. C'est à peu près la même chose avec les gilets jaunes. Je veux dire, en forçant la question de l'égalité sociale, c'est-à-dire ce que je vais appeler la bisexualité freudienne, si vous voulez, cette dimension où là, ça serait symétrique. Et où effectivement on veut l'égalité. Là où c'est symétrique, on veut l'égalité. Bon, eh bien, on se trompe de créneau, parce qu'il y a un autre créneau dans lequel tout ça ne marche pas, tout ça ne fonctionne pas comme ça. Et que c'est pas. C'est la question sociale devient. disons, les plus prégnantes, c'est le discours analytique, mais c'est aussi, il faut le voir, tout ce que le signifiant a instauré comme différence sexuelle par le passé ou dans les... on voit aux structures élémentaires de la parenté qui sont l'un des fondements de la parenté.
Ce qui est intéressant, c'est de voir dans les mouvements féministes, les théories des mouvements féministes. D'abord, il y a des courants de féministes qui prônent la ségrégation des hommes.
Bien sûr.
Ce n'est pas les hommes ségrégant les femmes, c'est l'inverse. Et puis, il y a des
courants. Mais, notamment, on refusait des hommes dans les manifestations de femmes.
Oui. Chez nous, ce n'est pas très consistant, ces théories, mais aux États-Unis, c'est très consistant. Et puis, il y a quand même deux courants. Il y a les courants qui plaident pour l'égalité, et puis le courant qui plaide pour l'essence féminine. Alors, de notre point de vue, encore faut-il, dans la Candide, il y a deux races. Je ne dis pas qu'il y a une essence de la femme. Ce n'est pas la même chose.
Non.
C'est pas la même chose, donc il faut encore bien que nous précisions au fond quelle différence ça fait pour nous quand nous disons de race de jouissance. Hein, c'est ce que disait Nicole. Il y a deux races de jouissance, ça ne fait pas une essence de la femme. Ça fait des femmes qui sont toutes des singulières en plus, loin de faire une essence de... Alors, il faut qu'on ait je pense qu'il faut avoir une position sur ce point vis-à-vis des mouvements féministes qui nous parlent de l'essence de la féminité. Parce que la féminité, en plus, il faudrait bannir ce terme.
Mais avec l'essence, tu vas dans un débat compliqué.
La féminité. Oui, oui. Il y a une taxe là-dessus. La taxe pour le degré de féminité.
Pour qu'il y ait ségrégation, il faut qu'il y ait constitution d'une classe à partir d'un trait. C'est ça qui fait qu'un certain nombre de non-porteurs de traits sont ségrégés. Je crois que c'est là que le fonctionnement strictement logique et signifiant de la ségrégation se fonde.
Il faut un trait et un espace.
Alors, un espace ?
Il faut que ceux qui ont le trait soient dans un espace
constitue une classe.
Qui peut être géographique, voilà. Ou discursif.
Ou logique.
Ou logique, oui, mais il faut un espace. Sinon, on ne peut pas parler de ségrégation.
Alors, si on prend... parce que c'est quand même une importation de la politique, la ségrégation, ça existe et ça a existé, de fait.
Et ça existera.
Voilà. Et bon, si on prend le suprématisme blanc actuellement dominant aux États-Unis, puisqu'ils ont eu un président qui les représente, ce sont des ségrégatifs. Ce sont des gens qui se constituent en classe à partir d'un trait ou de quelques hommes, la grossièreté et la blancheur, disons, et à partir de là, ils ségrèguent. Bon. Et il y a quand même. C'est une position. Et du reste, les gens qui ont établi une ségrégation défendent cette position. Là aussi, on a tout de suite. Bon. C'est là que ça vient quand même. Il faut pas. Mais alors, du point de vue de la question féminine, il y a l'idée quand même de la forclusion du sexe féminin comme tel dans l'inconscient.
Alors, la question. Des
femmes. Alors, est-ce que cela, c'est de l'ordre de la ségrégation ou non? Est-ce que cette forclusion est ségrégative? C'est comme ça que je reprendrai votre réflexion. Oui. Je n'en sais rien.
Moi, j'appelle ça une forclusion, c'est pas une ségrégation.
Voilà. Alors, est-ce que ça a des effets ségrégatifs? Je crois que c'est ça le débat.
Non, parce que dans tous les exemples, vous voyez, comme site de ségrégation. On ne peut pas dire qu'il y a un acte de ségrégation.
Mais dans la cour de récréation dont on parlait.
Oui. Toujours une décision ségrégative. Mmh. On ne peut pas toujours dire quel est, de quel point subjectif le sujet parle, mais il y a toujours une décision ségrégative. Et dans la forclusion, de la part pas toute, il n'y a aucune décision ségrégative.
Ah oui,
c'est un effet de logique d'un côté et de corps de l'autre.
Mais dans la réalité, disons, sociale, il y a constitution d'une classe à partir de là.
Ah oui, oui, d'accord.
C'était l'histoire de la cour de récréation. Les petits garçons, ils deviennent méchants quand ils se retrouvent avec leurs copains.
Finalement, les cours de récréation séparés garçons-fils, c'est peut-être pas mal. Hein. Parce que ça, c'est assez récent, les cours mixtes, les écoles mixtes. Je plaisante. Je ne suis pas pour qu'on revienne à la ségrégation effective dans les cours.
Ça se ségrègue.
Alors, pour ma part, j'avais une question un peu purement, enfin, je dirais. Qui est à la fois théorique, mais qui a un incidence clinique par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure sur la question des suppléances. Je suis désolé, je suis arrivé en retard, mais je n'ai pas entendu le début de l'intervention. Mais ça concernait en fait un passage de Lacan qui m'a intrigué un peu par rapport à. C'est dans la préface à l'éveil du printemps de Dedekind. Il y a ce passage où. Enfin, je cite ce passage parce que pour moi, ça peut évoquer cet enjeu d'une clinique des suppléances. Donc, un certain nombre d'entre vous doivent avoir le passage en tête, hein, mais c'est ce fameux passage où il dit « Mais le Père entend qu'il n'y en a pas un qui lui convienne, sinon le nom de nom. Pas de nom qui soit son nom propre, sinon le nom comme existence. Soit le semblant par excellence, et l'homme masqué dit ça pas mal. Car comment savoir ce qu'il est s'il est masqué, et ne porte-t-il pas masque de femme, ici l'acteur ?» Le masque seul existerait à la place de vide où je mets la femme, en quoi je ne dis pas qu'il n'y ait pas de femme. La femme comme version du père, c'est ça sur lequel je m'interrogeais avec vous.
C'est un débat un peu compliqué, ça. Je veux dire, il y a des réponses.
Non, ce qui est bien dans cette citation, c'est la place de vide où je mets la femme.
C'est ça.
La place de vie,
d'accord.
Je mets la femme.
Du coup, je finissais juste pour demander, enfin, du coup, quelle est cette père, enfin, cette version du père qui porte masque de femme. Est-ce que c'est pas justement un de ces points de fuite par rapport à ce dont on parle en termes de ségrégation jusqu'ici.
C'est-à-dire ceci demande un petit commentaire détaillé, donc. Un peu compliqué. C'est pour ça que ça me paraît difficile de le reprendre ici. Hein. En tout cas, l'idée, c'est que la femme, dans les formules qui sont les formules de la sexuation dans le corps, la femme viendrait de l'autre côté à la place de « il existe un X tel que non figé X ». C'est ça l'idée.
C'est l'exception à la...
Voilà, c'est-à-dire une femme. Pas une femme, mais la femme.
Là-bas,
occuperait cette place de l'exception. C'est ça l'idée que... Mais c'est en
fait... Cela même se discute.
Oui, non, mais c'est... Bon,
cela même se discuterait. On irait loin avec cette question.
C'est un débat compliqué où l'idée est quand même celle de... Est-ce que...
C'est pas ma lecture, personnellement, hein, de...
Oui,
oui.
La femme
à nom du père. Il y a plusieurs lectures possibles de cette
père. D'accord. Non, je voudrais revenir à un autre point qui était ce que Anita avait développé avec tout de même des éléments, les éléments cliniques. Hein. Alors, il y en avait un que je retiendrai particulièrement parce que l'idée d'être enfin l'homme et la femme, enfin un homme et une femme, n'est-ce pas? Voilà. Alors, je crois que ça, c'est vraiment tout à fait un modèle qui est dans dans Schreber, etc. C'est-à-dire que c'est de rattraper la question phallique en, avec un semblant de symétrie. C'est cet effet Hormuz des Harriman, je ne sais pas, le bon et le diable, etc. On tombe toujours dans la psychose sur des oppositions qui sont en réalité imaginaires, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas, ce sont des fabrications imaginaires, comme tu dis d'ailleurs à propos du cas en question, hein. Ce sont des fabrications imaginaires qu'on voit dans la psychose faute d'un signifiant qui permette d'accrocher les choses. Le signifiant, il dissymétrise justement. C'est le propre de nom du père. Il dissymétrise. Et donc là, c'est vrai que dans la psychose, on n'a pas ça. Et il arrive que cette symétrie puisse avoir un effet stabilisateur.
Quand on parle des femmes en analyse,
d'évoquer
la psychose, dans tous les cas.
Non, c'est un cas
qui a été. Les exemples d'Anita, les exemples d'Anita, pour moi, ce qu'ils illustrent, c'est pas la femme, c'est comment une femme se propose, je cite Lacan, se propose d'être dite femme. Et comme beaucoup de femmes, sur certaines psychologies, justement, doutent fortement de savoir si vraiment elles peuvent l'être dites. Dans l'analyse, il y a des sujets qui utilisent l'analyse pour fabriquer la manière de pouvoir se dire femme. Alors, on peut se demander si c'est la bonne direction, si elle prend la bonne direction, si on ne pourrait pas faire autrement. Mais...
Ah, mais ça me paraît assez différent de la position évoquée par la psychose, ça.
Ah oui, bien sûr.
Bon,
que ce soit clair. Dire que dans l'analyse...
Bien sûr, puisqu'on part sur l'idée d'un... C'est ce qu'on a vu un peu l'année dernière, puisqu'on part d'une idée qui est justement, contrairement à ce qu'on pouvait imaginer que dans la névrose... on sait de quel sexe on est et que dans la psychose on ne sait pas, Lacan il nous explique que c'est le contraire. Bon, c'est-à-dire que dans la névrose il y a toujours un flou, et que dans la psychose il y a par contre, comme on le voit à l'occasion de transsexuel par exemple, il y a la certitude d'être d'un sexe qui est spécial.
Je veux dire que est-ce que dans une analyse, le travail, l'analyse d'une femme, est-ce que le travail, c'est qu'elle arrive à une petite construction qui lui permet de se dire à elle-même femme, qui serait le suppléant, si on a un peu l'externe, ou c'est le contraire? Est-ce que l'analyse doit arriver à ce que la question ne se pose plus?
Moi,
je crois que c'est ça plutôt.
Mais c'est parce que là, il s'agissait de la psychose.
C'est parce qu'il s'agissait de la psychose, c'est ça. Mais j'ai parlé d'un exemple ici. Et sinon, en effet, ça c'était mon paragraphe de la fin. Dans une analyse qui va vers la fin, disons, là, en effet, la femme, elle va pas du côté d'être femme, mais plutôt d'être exclue de sa singularité, d'être exclue de la nature des mots et des choses. Donc finalement, c'était ça que je voulais faire comme différence entre le discours, par exemple, historique de l'histoire, où on a l'impression que, comme vous parlez de l'essence des féministes, l'essence de la féminité, c'est sûr que ce qui n'existe pas de la femme, son exclusion de la nature des mots et des choses, elles ont tendance à la faire exister, la femme, ces féministes, en disant, ça y est, la manière d'être femme, c'est celle-ci. C'est d'être objet de jouissance de l'homme, de consentir à ça et de sentir que sa jouissance est à la fois intérieure et extérieure et qu'elle peut être femme pour ça. Mais dans l'analyse, on ne va pas en effet proposer de modèle. L'analyse, après, il y a en effet soit la psychose, comme tu as dit, Jean-Jacques, où le sujet, il invente, comme vous avez dit, il fait sa substance de femme à sa manière, avec son exclusion de la nature des mots et des choses qu'il ne peut pas symboliser quand elle dit qu'il faut qu'elle soit homme pour se soutenir et pour être femme ensoleillée, ça veut dire épanouie et pas évanouie. C'est ce soutien entre les deux signifiants, comme elle n'a pas de symbole, comme tu l'as bien dit.
Donc,
c'est juste pour dire comment finalement l'analyse est tout autre chose que le discours hystérique, que le discours historique des féministes qui se propose de donner une solution à elle.
Je voudrais revenir un peu sur cette affaire de qu'est-ce qu'on appelle ségrégation et poser une question comme ça à toutes les parties. C'est quand même aussi l'idée d'un certain rapport par rapport à la norme. La norme, bon, nous on joue avec le mot norme mal, à la norme et à ce qui est considéré comme étant correct. Évidemment, je pense à la politique correcte. Et que ségrégation, c'est une affaire de discours, c'est-à-dire quel est le discours correct par rapport à auquel, disons, on se positionne et par rapport auquel on est isolé ou pas. Et je donne ici l'exemple, peut-être vous le connaissez, de ce philosophe Avital Ronel, qui est professeur de philosophie, qui était à New York, et qui a été accusé par un de ses étudiants, des années après avoir terminé le travail avec elle, de harcèlement sexuel. Avital Ronel, c'est une des femmes philosophes les plus connues et reconnues au monde, hein, de savoir ça. Et donc, il y a un procès, mais la communauté scientifique, en tant que des chercheurs et des chercheuses, menée par Judith Butler, hein, quand même, pas n'importe qui, ont écrit un courrier publié dans le New York Times pour défendre Avital Ronel. Eh bien, qu'est-ce que ça a produit? Ça a produit un contre-effet dans les universités américaines, une pression énorme sur les signataires de cette lettre, à tel point que toutes et tous se sont désistés et ont écrit un texte dans lequel les signataires disent qu'ils se sont trompés. Ça,
ils ont prétexté des éléments nouveaux aussi.
Oui, mais enfin, il n'y a pas d'éléments nouveaux.
Ils ont prétexté des éléments nouveaux pour dire qu'ils
ont. Ils ont voulu garder leur poste à l'université, surtout. C'est surtout ça. Y compris Judith Butler. Hein. Et le seul, d'ailleurs, qui n'a pas changé d'avis, c'est quelqu'un. Enfin, c'est Slavoj Žižek. Ce qui est aussi très intéressant. Voilà, je voulais juste mais ça et peut-être vous questionner là-dessus.
C'est tout un monde. C'est pour ça que cette question qui est vraiment avec laquelle on a du mal, disons, pour débrouiller la chose, sont des questions où ce qui est très curieux, c'est que là où nous on a du mal à débrouiller la chose, enfin, disons, on essaye quand même. Bon, et ben en face. Ce qui est frappant, c'est à quel point les gens ont des idées parfaitement décidées à régler. En face, c'est dans ce qu'on
ce qu'on entend, ce qu'on voit, la télévision.
Jusqu'au commun.
Voilà, voilà. C'est très frappant quand même. C'est très frappant. Les choses sont aussi tranchées qu'elles le sont.
Il y a des voix diverses quand même. En France, il y a des voix diverses.
Oui, oui. Oui, oui, il y a des voix diverses. Mais enfin, c'est vraiment. Il n'y a vraiment qu'en France que 80% des gens sont pour les gilets jaunes. Et en même temps, voilà, les Français sont contents, enfin, ils ne sont pas contents des taxes qu'ils reçoivent, et puis ils sont très contents des bénéfices qu'ils ont. Voilà. Bon, on va peut-être s'arrêter là. Je vous rappelle la réunion de la semaine prochaine. Et oui. Ou, alors, je ne sais plus, mais moi, j'interviendrai en tout cas.